Bonjour à tous, bonjour. Alors vous savez, on va faire comme dans les bons repas, c'est-à-dire que on va commencer et puis comme ça, ça fera arriver Gilbert Borde. Voilà, on se dit comme ça. Bon, bah, écoutez, je suis extrêmement honoré que François David m'ait demandé d'animer cet hommage, ce moment. Je suis très flatté même parce que vous savez, je suis, enfin mon père est briviste. Et je reviens toujours de grand cœur dans cette ville. Et j'ai... Voilà. Pour l'anecdote, mon grand-père était quand même président du CAB, hein, ce qui vaut quand même un brevet de respectabilité dans cette ville important. Et ensuite, après, j'arrêterai de parler de moi, vous inquiétez pas. Mais la sœur de mon grand-père était très liée à Madame Michelet. Et donc voilà, j'en parlais souvent avec Claude Michelet. Et donc voilà, donc c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire de la famille, c'est important. Et l'école de Brive, en fait, j'ai un souvenir qui me revient tout de suite, donc je l'ai écrit aussi dans le petit guide du point, là, c'est il y a 20 ans, j'avais été invité à déjeuner par Jacques Pochemort au bistrot des Charpentiers à Paris, et qui était une antenne corrézienne à Paris, très, très connue et très fréquentée par Jacques Chirac. Et autour d'une bonne bouteille de rosé et de poêlée de champignons, il m'avait raconté l'épopée, parce que c'est une vraie épopée de l'école de Brive. Et donc c'est pour ça que je suis très heureux qu'on vienne une fois de plus se réchauffer à cette âme. Et je me souviens très bien de Pochemort qui disait, à l'époque quand j'avais lancé, donc c'était 20 ans avant, donc c'était il y a 40 ans, l'école de Brive, avec vous, messieurs. Il disait... Ah, mais c'était un pari quand même énorme de sortir des auteurs de Brive, de Bourganeuf, de Tulle. Alors, je crois qu'à Paris, les gens ont encore ça dans les têtes, mais c'est parce qu'ils ne voient pas les tirages. Les tirages de ce monsieur, par exemple, Christian Signol, qui est quand même un des auteurs les plus vendus de la maison Albin Michel. Et puis les tirages de Yves Viollier et Jean-Guy Soumy, qui sont des auteurs fétiches aussi des presses de la cité et donc qui tous les ans viennent à la Foire du Livre voilà apporter des nouveaux romans souvent avec un fort imaginaire donc voilà donc le mieux ça va être de les écouter il s'agit pas de refaire l'histoire de l'école de Brive, il s'agit de rendre un hommage à Claude Michelet. Moi j'ai vraiment beaucoup d'attachement à la famille Michelet. Et notamment, il y a un an, j'ai publié un livre qui commençait par ce moment unique, je trouve, de Edmond Michelet avec Germain Auboiroux, qui était un communiste donc pur et dur, disait Claude Michelet. Et qui, une fois que... Je raconte cette anecdote parce qu'elle est très parlante et elle nous permettra d'ouvrir notre conversation. C'est qu'une fois... Claude l'a raconté souvent, ça a été très, très écrit, mais... son père, donc Edmond Michelet, était empêché d'aller à sa messe quotidienne qu'il suivait donc, à Dachau. Et Germain Auboiroux, qui était un stalinien pur et dur, athée profond, lui avait dit « Eh bien, j'irai à ta place, et donc je ferai cette sentinelle. Je serai la sentinelle à ta place, donc je serai le relais, comme ça, en silence. » Je serai un peu la sentinelle spirituelle, et c'est ce qui nous lira. Et je trouve que c'est magnifique, parce que c'est pour moi la définition de la fraternité. Et cette fraternité que l'on retrouve donc dans ce courant littéraire, parce qu'on peut parler d'un courant littéraire qui s'appelait l'école de Brive. Donc, je voudrais d'abord vous demander à tous, alors, un hommage spécial aussi à Michel Peyramor. Qui devait être là ce soir et qui publie toujours, il faut toujours le dire, le centenaire Michel Peyramor publie, on a le même éditeur, Calmann Lévy, donc je suis très au courant de ça. Et donc Michel publie tous les ans un roman, mais malheureusement, il était indisponible pour venir parmi nous ce soir. Donc ce que j'ai envie de faire déjà, c'est on va faire circuler la parole, et donc c'est très important, c'est surtout d'entendre ces messieurs. Et donc, déjà, d'entendre un peu, Christian Signol, quel est le souvenir marquant que vous avez de Claude Michelet de Tony Tillinac, enfin,
Claude, je l'ai connu dans les années en 73-74. Première foire du livre, ici à Brive, là, organisée par Jacques Pochemort et les Amis du Livre.
Et Michel Peyramort.
Et Michel Peyramort, bien sûr. Et Jacques Peyramort faisait venir des auteurs à lui, notamment Bernard Clavel, Martin Gray, Max Gallo, etc. Et Claude venait avec sa vieille camionnette, parce qu'à l'époque, il n'avait pas écrit des Grivolous, mais je pense qu'à l'époque, il avait déjà écrit Une fois sept. Peut-être La Grande Muraille aussi, même, tout ça. Et donc, je l'ai connu à ce moment-là. Donc, c'était dans les années... début des années 70.
Et il avait déjà ce feu, enfin, cette fougue qu'il incarnait, non ?
Il avait la fougue et la foi. Il croyait à ce qu'il faisait. Il était très, très, déjà très fort et très énergique. Et il sentait que le succès de ce livre allait arriver, obligatoirement. Ah oui, il croyait en lui, oui, d'accord. Vraiment, oui. Moi, je l'ai senti comme ça à l'époque. Et moi, j'avais pas publié de livre à l'époque.
Oui, alors encore. Vous, à l'époque, vous aviez quel âge à l'époque ?
Non, mais moi, j'étais jeune, mais c'est Jacques Peyramort qui me faisait venir pour l'aider à déballer les livres.
Ah oui, donc, d'accord. Vous voyez, ah oui, oui, donc, oui.
Oui, 73, 74, c'était d'accord. Une des premières, voilà. D'accord. Et donc, l'école de Brive, alors bon, revenons-en rapidement, c'était un label commercial qui appartenait à Robert Laffont. Quand Robert Laffont a été viré de sa maison parce qu'il n'était plus majoritaire, moi, je n'ai pas accepté. Parce que j'étais un ami de Robert Laffont, très cher.
Vous aviez fait sécession, oui.
Oui, voilà. Remplacé par M. Fixot. Ouais. C'était un ami très cher. Moi, je déjeunais avec lui chaque fois que j'allais à Paris. Donc, je n'ai pas accepté. J'ai dit non. Et Isabelle, sa fille, a fait comme moi. Et on s'est retrouvés sur le trottoir de la place Saint-Sulpice. Et elle m'a amené chez son mari, Richard Ducousset, qui était directeur des éditions Albin Michel. Donc moi, je n'ai jamais renié l'école de Brive. Je suis parti par fidélité à Robert Laffont. Que ce soit clair, une bonne fois pour toutes.
Voilà, c'est ça. Voilà. C'est dit. Voilà, au moins c'est dit. Voilà. Oui. Donc on... Alors, on continue, puis après on reviendra, non. Évidemment. Donc Yves, alors voilà, il y a Gilbert Borde qui arrive. Voilà. Il était en train de signer des livres, donc il n'avait pas eu le temps de... Voilà. Vous n'aviez pas vu leur tournée, là. Vous signiez tellement que vous n'aviez pas vu leur tournée. Là.
C'est à peu près ça.
Bonjour.
Pardon.
Bon, alors nous sommes en train de raconter la mémoire de Claude Michelet, Denis Tillinac, l'école de Brive. Donc Yves, quel est votre souvenir de Claude ?
Alors moi, je n'ai pas la... Je n'ai pas l'avantage d'être briviste. Lorsque je suis arrivé à la foire du livre de Brive, j'étais le Vendéen, j'étais l'étranger, bien sûr. Mais j'ai été tout de suite accueilli par ce qu'on appelait une bande. Hein, c'était la bande un peu chmort. Et ça s'est très bien passé. C'était à ce moment-là, je venais de publier, je crois, Par un si long détour, mon premier roman chez Robert Laffont. Et que ce soit avec Claude, que ce soit avec Michel, que ce soit avec Denis, il y a eu une fraternité qui s'est tout de suite établie. Et ils m'ont dit, mais pendant l'été, on se retrouve du côté de Chauffour, chez Jacques. Ce serait bien que tu viennes nous rejoindre. Tu viens, mais viens avec ta femme, on est tous ensemble. Tu viens, tu dormiras chez l'un ou chez l'autre. J'ai été accueilli d'abord chez Michel Peyramort. Et donc, je suis venu pendant l'été qui a suivi, au mois d'août. Et là encore, la mayonnaise a bien pris. Et à l'issue de cette rencontre, ils ont dit l'école de Brive commençait à devenir ce qu'évoquait tout à l'heure Christian, un label. Et ils ont dit il faut que Violier fasse partie de notre bande. Et c'est Claude qui a dit mais Violier, il a un inconvénient. École de Brive, il est Vendéen. Et Claude a dit « Oh ben, ce sera le Vendéen de l'école de Brive. Voilà. » Et c'est comme ça que j'ai été adopté. Et je l'ai été directement, spontanément. Et ça a été une chance importante pour moi, parce que profiter de l'élan de l'école de Brive, c'était un cadeau que tous les amis me faisaient.
Jean-Guy.
Eh bien... Le souvenir que j'ai de Claude est un souvenir fondateur dans mon histoire personnelle, puisque je l'ai rencontré au milieu des années 80, alors que je n'étais pas publié. Je faisais partie de ces personnes un peu désespérées qui ont du mal, probablement, à écrire un premier roman, qui ont des retours négatifs de la part des services d'édition, certainement très légitimes, mais qui a... quand même, malgré toute l'adversité, l'idée un peu dont parlait Christian tout à l'heure, mais l'idée que c'est possible d'écrire un roman. C'est possible, il y a quelque chose en soi. Mais j'étais profondément isolé. Alors, Yves vient de la Vendée, mais moi, je viens de la Creuse. Et c'est une...
Grand isolement.
Comment ?
Grand isolement.
Oui, c'est une façon... Pour un Corrézien, la Creuse, hein, c'est très loin. Et donc...
C'est une expatriation.
Par un ami, hein, que je peux citer, c'est Jean-Jacques Champ, j'ai obtenu un rendez-vous de Claude. Alors que je n'étais au fond, si j'ose dire, personne, il m'a accueilli à Marcillac. Il m'a consacré du temps. Je suis resté à Marcillac deux heures au moins. Il m'a écouté, il m'a parlé, il a accepté de lire le manuscrit que j'avais porté. Et je crois que son attention témoignée à mon travail, finalement, m'a permis de continuer, de persévérer. Parce que quand on écrit, la persévérance, c'est très important. Et donc, le souvenir de Claude, c'est ce premier souvenir. Je n'ai été publié que quelques années plus tard par Jacques Pochemort, hein, chez Lafon. Et j'ai tout de suite été sensible à l'atmosphère amicale qu'il y avait dans ce groupe d'auteurs. Et j'ai bénéficié, hein, comme Yves en a témoigné, de l'énergie et aussi de l'écho éditorial que représentait l'appartenance à l'école de Brive. Mais mon premier souvenir, c'était, je n'étais pas écrivain encore quand j'ai rencontré Claude.
Alors Gilbert.
Eh bien alors, ma rencontre avec Claude, elle est toute simple. C'était sur une route, je ne sais pas où, vers Curemonte, tout à fait vers le fond de la Corrèze. Et j'avais garé ma voiture. Il y avait une signature, je ne sais dans quel village. Et cette signature, je suppose qu'Alain Gazot m'avait dit de venir. J'avais publié peut-être un roman. Et je marchais sur la route, parce que, comme je suis quelqu'un qui conduit très mal sa voiture, je me garde toujours le plus loin possible. C'est mieux, on marche à pied, et comme ça, on est tranquille. Je marchais, et tout d'un coup, j'entends « C'est lui, arrête-toi !» La voiture passe, s'arrête. Et c'est Claude qui est sorti. « Ah, c'est toi, salut, comment tu vas ?» Comme si on s'était connus depuis toujours. Et puis c'était fait. On n'en parle plus. On était copains. Et je ne sais pas si c'était déjà l'école de Brive, mais c'était déjà la camaraderie. Et au fond, qu'est-ce qu'il faut de plus ?
Merci. Donc, Christian Signol, donc la générosité, la camaraderie, ça, c'était Claude Michelet. Hein,
Oui, il était très, très généreux. Dans tous les domaines, oui. Évidemment. Moi, le souvenir que je garde, c'est la première photo qu'on a fait sur les marches de l'église Saint-Sulpice à Paris, où on était quatre, les quatre premiers. Oui. C'était Claude Michelet, Denis, Tillinac, Michel et moi. Et puis, il y avait Jacques Pochemort qui était... Et d'ailleurs, c'était une photo qui avait été publiée par le journal Le Point.
Bien sûr.
Suite à l'article de Jacques Duquesne.
Jacques Duquesne, le mystère Brive.
Voilà. Celui qui a qualifié les écrivains de Brive de l'école de Brive. Voilà. Donc, c'était ça. C'était en 1984. On était les quatre premiers.
Ça,
ouais.
Les quatre mousquetaires.
Et aujourd'hui, malheureusement, il n'en reste pas beaucoup.
Oui. Ouais. Mais vous êtes les vaillants gardiens de cet esprit-là.
Oui, du moins on a essayé tout au long de notre vie littéraire et ça n'a pas été facile.
Oui.
Parce que quand on vit en province, hein, il est très difficile de s'imposer à Paris.
Oui.
Et il est très important.
Vous êtes quand même le contre-exemple de ça. Puisque
contre-exemple, mais parce que j'ai bénéficié d'un éditeur très très puissant qui a lui-même son réseau de distribution,
oui.
Qui a ses propres représentants.
Ah oui, oui.
C'est pas les représentants du groupe, c'est les représentants d'Albin Michel. Et c'est très important au niveau des libraires, parce qu'ils passent en tant que premier représentant, alors que les petites maisons qui sont dans un groupe, si vous voulez, quand les représentants passent, si la maison est dernière, la plus petite, les libraires, déjà, n'écoutent plus. Ils ont pris les best-sellers des grandes maisons. Par exemple, Hachette, c'était Grasset, Fayard. Et les autres, la thèse, tout ça derrière, c'était... Donc c'est ça le problème, si vous voulez. C'est ce qui est important pour un éditeur, c'est sa puissance commerciale.
Oui,
et moi, j'en ai bénéficié parce que je suis allé chez Albin Michel, mais pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure.
Mais vous vous sentez toujours, en tant qu'auteur, parce que maintenant, vous êtes vraiment installé, quoi, dans le... Vous
oui.
vous sentez toujours un peu méprisé par... ce qu'on appelle, enfin on en a parlé déjà.
Plus maintenant, mais ça a duré très longtemps.
Ah oui.
Ça a duré très très longtemps parce que, encore une fois, Tout ce qui ne vient pas de Paris, vu de Paris, ça n'existe pas. En fait, c'était ça le problème.
Oui, je pense surtout que ce n'est pas une question de mépris, c'est une question d'ignorance. Les Parisiens et les critiques parisiens ont leur manière de voir les choses, d'aimer certains romans, les romans plutôt nombrilistes, les romans qui ne racontent pas forcément des histoires. Nous, on a pris une autre voie. Les romans qu'ils encensent sont sûrement des bons romans, mais ils ignorent un petit peu les notes, peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps de les lire, et puis peut-être aussi parce qu'ils n'ont jamais pensé qu'on pouvait éventuellement raconter des histoires intéressantes.
Oh, c'est plus compliqué que ça, hein.
Oui, c'est plus compliqué. Oui. C'est un peu ça.
Je pense que le problème est beaucoup plus ardu que ça. Hein. C'est-à-dire que, quand même, ils estiment que tout ce qui vient de la campagne, du monde rural, n'est pas du tout représentatif de l'intelligentsia et de l'élite parisienne ou même de l'élite nationale.
Pourtant, maintenant, l'élite parisienne, comme vous dites, avec la sobriété, est obligée de regarder vers les campagnes. Donc, ça va être le retour à la terre, là.
Avec la sobriété, vous voulez dire, oui. On dit que les gens des villes reviennent vers les campagnes avec le télétravail, c'est ce que vous voulez dire, oui. Voilà. Mais c'est peut-être qu'un phénomène très provisoire, ça, à mon avis.
Alors, Christian Signol, j'ai une question pour vous aussi. Est-ce que vous pensez que, par exemple, Claude Michelet avait fait des Grivolous, qui a eu un succès, je crois que c'était 3 millions d'exemplaires vendus. Enfin, est-ce qu'on peut dire que la rivière Espérance, qui est pas la même chose, je sais bien, mais est-ce que c'est une continuité dans ce... parce que non. Vous avez fait un succès aussi colossal avec la rivière Espérance.
Oui.
Et donc, est-ce que c'est une continuité des Grivolous dans un autre registre, je veux dire, puisque vous, c'est
pour
la Dordogne, alors que lui, c'était le sur...
Je pense surtout qu'il y avait un lectorat, à l'époque, disponible pour ce genre de littérature inscrite dans le territoire national, et que ce lectorat-là, c'est Jacques Pechemort qui l'avait senti, lui, dès le début, et pas seulement avec Claude, mais déjà dans les années 50, quand il avait publié Clancier, Georges-Emmanuel Clancier avec Le Pen Noir. Et ça avait commencé à ce moment-là. Mais c'est Jacques Pechemort qui a senti tout ça. Parce que lui-même était d'origine rurale. Donc ses parents étaient de Corrèze, là-bas, à côté de Chauffour. Et lui, à Paris, il avait senti ça, qu'il y avait un besoin du lectorat traditionnel français pour aller vers ce genre de livre-là.
Et puis, il y avait aussi... Il faut un lectorat, mais il faut des écrivains aussi. De vrais écrivains. Ce que vous êtes... vous voyez des gens qui portent la plume. Et donc, avec... les glorieux, justement, Tillinac, Michelet. Il ne fallait pas seulement un lectorat, quoi.
Oui, mais c'est parce qu'il savait qu'il y avait ce lectorat-là qu'il a créé l'École de Brive et qu'il allait chercher les écrivains qui pensaient capables de personnifier ce genre d'attirer ce genre de lectorat. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a fait ça, qu'il a senti. Ouais. Le premier étant Michel et Claude Michelet, effectivement, tout de suite après, quoi.
Ouais.
Mais il n'y avait pas que. Il y avait déjà Anglade, dans le Massif Central, qui c'est vendait ça. Beaucoup de livres, et tout ça. Mais bon, Pechemort, il l'avait senti d'abord avec Clancier, en 1956. Vous voyez, ça ne datait pas d'aujourd'hui.
Il y en a un autre aussi que Jacques Pechemort a fait grandir et lui a obtenu même le prix Goncourt. C'est Bernard Clavel. Il travaillait ensemble et Les fruits de l'hiver, c'est un roman aussi qui est de la famille de l'École de Brive.
Et d'ailleurs, Yves, on en parlait encore hier tous les deux, les deux plus gros Goncourt de toute l'histoire des Goncourt, c'est quoi? C'est L'épervier de Maheu de Jean Carrière, 3 ou 4 millions d'exemplaires, et Les fruits de l'hiver de
Bernard Clavel.
Voilà.
D'accord. Ouais.
Alors ça veut bien dire quand même que ce que l'on fait n'est pas forcément totalement inintéressant.
Et ça prouve qu'il y avait une attente aussi.
Oui, c'est ça. Et je dois dire, pour parler de l'écriture aussi et de l'École de Brive, là, pour ce qui me concerne, à partir du moment où tu fais partie de la famille, quand tu écris, parce qu'on parlait de la bande, on était appelé l'École de Brive, Jacques Duquesne nous avait baptisé ainsi. A priori, on disait, on n'est pas une école, il n'y a pas de règles, il n'y a pas... Mais il n'empêche que quand nous écrivions, et même quand nous écrivons aujourd'hui encore, on sait que les copains vont nous lire, et ça nous oblige à situer notre écriture à un niveau qui va faire plaisir, enfin, qui va être apprécié par les copains.
Moi, je crois que l'école de Brie, c'est pas une école, en fait, parce que si on regarde bien les œuvres littéraires des uns et des autres, elles sont très différentes.
Il n'y a pas d'unité de style. Il y a Michel qui écrivait des romans historiques,
oui,
avec Claude, il
n'y
a pas d'unité de style, c'est pas une école.
Oui, c'est ça, ce n'est pas une,
c'est
pas
une collection. C'est une cour de récréation.
Je crois que le talent de Jacques Pochemort, c'est d'avoir eu cette intuition dont tu as parlé, avec Clancier, des grands. On pense au Cheval d'Orgueil aussi, enfin, qui a été un événement.
C'est plus tard, ça.
Oui.
Plus tard.
Mais oui,
c'était, mais
c'est plus tard.
Pochemort,
mais
c'est 56. Hein.
Oui, oui, mais ça a été quand même un révélateur. Il y avait, donc Jacques Pochemort avait cette intuition qu'il existait une demande de travail sur la mémoire collective, parce que c'est un peu ça aussi la difficulté, c'est de travailler sur une mémoire collective. On ne peut pas écrire n'importe quoi quand on travaille sur la mémoire collective. Or, nous, enfin, nous avons souvent posé des histoires singulières sur une mémoire collective. Et donc, je crois que ceci est très important. Mais je pense que nous avions tous des univers et des imaginaires très différents. C'est ce qui faisait notre richesse. Je crois que la conscience d'appartenir à un petit groupe, à une bande, si vous voulez, nous donnait une force que peut-être isolément nous n'aurions pas eue ou que nous n'avons acquise que bien des années plus tard.
En fait, c'était une fraternité, quoi. Enfin, une fraternité ad hoc, on peut dire.
Oui, qui était dirigé d'en haut un peu par Jacques Pochemort, qui
une confrérie de bistrot.
Oui. Et alors, qui était un éditeur très 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 sévère. Hein. Il lisait les manuscrits, Jacques, avec un crayon à papier à la main.
Hein. Il était cinglant. Hein.
Oui, oui.
Horrible.
C'était très difficile. Il était exigeant, très exigeant.
Oui, mais ça se ressentait. Et alors, on reviendra peut-être sur la richesse de votre créativité, parce que vous êtes quand même dans tous les domaines, et puis vous arrivez à sortir des romans comme ça tous les ans pour la foire du livre, hein, c'est le rendez-vous. Mais il y a une chose aussi, parce que je trouve que chez les Michelet, évidemment, quelque chose d'important, c'est la foi. Est-ce que vous pensez que la foi a été un élément fédérateur? Alors je sais qu'évidemment, que dans cette bande, il y a des gens d'opinion totalement diverses, oui. Mais est-ce que vous pensez que l'élan du début, donné par Claude Michelet, était un élan aussi un peu spirituel au sens large?
Voilà, mais la foi, c'est pas seulement la foi telle qu'on peut la concevoir, c'est la foi en l'homme.
Un
et je pense que celle-là, elle nous réunit tous, hein, même,
oui.
Quelles que soient nos pensées,
voilà,
et notre manière de voir l'au-delà.
Voilà, c'est ça que je voulais vous faire dire.
Oui, c'est un humanisme. Hein, qui... oui. Et d'ailleurs, quand il me disait « Tu vas venir avec ta femme, avec eux », il voulait rassembler une famille.
Oui.
Hein, on était de la même culture, cette culture donc de la terre, et il avait envie qu'on se retrouve et qu'on bâtisse ensemble. Il y a cet humanisme et la foi en l'homme, bien sûr.
J'ai été surpris quand j'ai rencontré Claude de la tolérance qu'il pouvait témoigner et qui n'était pas entravé par une foi étriquée.
Si non, du tout.
Il était.
C'est pour ça que j'ai rappelé au début cette anecdote avec Germain Boiroux, qui pour moi est un.
Oui.
Était un sens de.
Il n'avait pas des croyances qui l'enserraient dans des comportements, et au fond, je pense qu'il avait aussi. Il avait la vraie foi et une croyance en l'homme.
Oui. Alors, il y avait un côté, bon, là, on a parlé beaucoup de la générosité, la foi, le côté spirituel, mais il y avait un côté bourru, quand même.
Alors, Claude
Michelet,
avait...
C'était peut-être le pendant de sa générosité. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez? Alors, il en disait des vertes et des pas mûres. Hein, quand quelqu'un...
Justement,
il y avait quelqu'un dans le nez, bon, ben voilà, il prenait
Claude
pas,
était quelqu'un d'une franchise totale. Personne ne peut dire le contraire. Les gens qu'il aimait, il les aimait. Ceux qu'il n'aimait pas, ça se voyait tout de suite.
Voilà.
Voilà.
Et on dirait à notre époque, on dirait que c'était un as de la punchline.
Possible. Mais en termes français, on peut dire que quand ceux qu'il aimait, les portes de Marcillac, étaient toujours ouvertes à n'importe quel moment, et il y avait toujours de quoi boire et de quoi manger au frigo, et ceux qu'il aimait moins, ça sentait, donc on n'avait pas envie de passer le portail.
Et puis, il ne revenait pas toujours sur son jugement. Il disait, par exemple, celui-là,
pas
c'est
forcément,
un con.
Non.
C'est un con. Bon, ben voilà, c'est un con. On le laisse avec sa connerie, quoi.
Ben oui.
Oui.
C'est pour ça qu'il fallait mieux, dès le début, faire partie de ses copains. Mais non, non, je dis ça, mais c'est une bêtise, parce que dès le début ou n'importe quand, il avait un flair extraordinaire et il sentait ceux avec qui il pouvait s'entendre et les autres.
Je me souviens surtout des repas chez lui.
Arrête.
Le vendredi soir, où il invitait tous les auteurs de la maison Lafond, hein, chez lui, là-bas, à Marcillac. Hein, et c'était des repas très, très, comment dire, très chaleureux, très arrosés.
C'était bien, c'est qu'il n'y avait que de la descente au retour. Quand
même. Oui, exactement, oui. Et donc, j'en garde là un grand souvenir de ces repas-là, avec Denis.
Denis, Pierre Dozier, qui faisait partie.
Pierre Dozier, oui.
Oh, quelle catastrophe.
Oui.
C'était terrible.
Oui.
Moi, j'ai fait certains retours de Marcillac vers Tulle chez mes parents. Je ne sais pas. La voiture marchait toute seule.
Oui, c'est ça. Donc, ça fait partie...
Ah oui, bien sûr, la convivialité. Mais jusqu'au bout, il a été comme ça. Moi les derniers mots qu'il a prononcés lorsque j'ai eu au téléphone peu de temps avant sa mort, quand on se quittait, c'était toujours « Salut, vieux frère ». C'était devenu, comme vous le disiez tout à l'heure, une fraternité.
Oui.
Et ça, c'était précieux pour nous.
Mais c'est ce que faisaient aussi ses parents pendant la guerre, puisque moi je me souviens que Claude m'avait témoigné pour mon livre là, sur la résistance chrétienne, où au début ça a commencé comme ça, c'est qu'ils accueillaient tous les réfugiés chez eux, et puis après lui, Edmond Michelet prenait sa voiture pour emmener les gens pour les cacher aux Basines. Enfin...
Je connais énormément de réfugiés espagnols qui étaient dans le camp de concentration avec Edmond Michelet. Ils ont tous une reconnaissance éternelle pour lui, parce que c'est lui, quand il a été ministre, Edmond Michelet, qui leur a fait donner la nationalité française. Et ça a été très difficile, parce que c'était des communistes, la plupart. Mais lui, avec ce qui s'était passé dans le camp, c'est lui qui a œuvré pour qu'ils obtiennent la nationalité française. Et tout, je connais les descendants de ces réfugiés espagnols communistes qui lui vouent encore aujourd'hui une admiration sans borne. Je parle d'Edmond Michelet.
Oui. Et Claude, il y avait aussi ce côté créatif. Et alors, je me souviens d'une discussion avec lui il y a déjà quelques années, hein, plusieurs années, où je disais, mais pourquoi vous publiez plus pourquoi et tout. Il dit, parce que je n'ai plus rien à dire. Je me souviens, j'étais venu déjeuner là, à Marcillac avec votre mère, votre père. Voilà. Et donc, et à la fin, il m'avait raccompagné là, dans la cour. Et puis... je lui ai dit, pourquoi vous écrivez plus? Il m'a dit, je n'ai plus rien à dire. Je ne vais plus à la foire du livre. Hein, pardon, François David, qui est dans le fond, mais voilà, il disait ça, parce que j'ai plus rien à dire, j'ai plus rien à montrer, alors qu'il était encore en forme. Bon, il s'occupait beaucoup de son épouse aussi, il faut le dire. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Moi, je crois qu'il est extrêmement lucide par rapport à cela. Je pense
qu'il ne trichait pas.
Oui, c'est ça, oui. Le désir d'écrire, le désir de créer... un imaginaire, au fond, n'est pas inépuisable. Et je pense qu'il avait conscience de cette limite. Et je crois qu'il y a une très grande honnêteté à un moment à dire, eh bien, tout ce que je devais, ce dont je devais témoigner, eh bien, j'en ai témoigné. Et je crois que c'était un signe d'honnêteté, de lucidité aussi. Et
ce qui nous surprenait, enfin, moi, ce qui me surprenait, justement, c'est que Claude était aussi une force de la nature. Et je me disais, il n'est pas arrivé au bout de ses capacités créatrices. Mais il considérait que... Et d'autant plus que c'était un homme de grande culture, aussi de grande connaissance. On a passé des soirées, justement, à Marcillac, après, à l'issue des repas, à regarder les étoiles. On s'est baladé dans... Et je pense que vous aussi, sans doute, avec lui, il connaissait...
Moi, j'ai le souvenir d'un
dîner beau voyage
dans le champ, dans le pré, derrière, le soir, la
jardin,
nuit,
ouais.
Et avec un ciel étoilé.
Ouais.
Celle-là, c'est un tel, celle-là, c'est un tel.
C'était...
C'est extraordinaire ce qu'il savait sur les étoiles.
Ouais. Et on pouvait lui parler des oiseaux, et on pouvait lui... Il avait cette connaissance. Et je me disais à chaque fois, mais pourquoi il ne veut pas aller encore plus loin? Il considérait, comme tu dis, qu'il était allé au bout et qu'il n'avait pas autre chose à dire. Et là, c'est l'honnêteté
de
Claude.
Et alors, justement, sur la créativité, parce que moi, ce qui m'a toujours vraiment étonné chez vous, c'est qu'il y a une forte créativité. Est-ce que vous discutez les uns avec les autres depuis le début de l'école de Brive pour vous enrichir mutuellement, pour tester des idées? Parce que vous, Christian, là, chaque année, vous embarquez sur un autre thème. Cette année, c'est l'histoire d'un instituteur.
Oui, mais c'est ça, comment dire, c'est peut-être trop aussi. Hein. oui, mais je veux dire, bon, à un moment donné, il ne faut pas réécrire les mêmes histoires, il faut changer de personnage, de lieu, etc. Ça devient de plus en plus difficile. Quand on a écrit 40 romans, comme moi, chaque année, ça devient de plus en plus difficile. Ah oui. Et il faut savoir s'arrêter. Le jour où on a l'impression de se redire ou de réécrire les mêmes choses. Quoi. Ça n'a pas été le cas pour le moment, mais ça peut venir rapidement.
Claude disait, il ne faut pas écrire le livre de trop.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et je pense qu'il a eu la pudeur et l'amour propre suffisant pour dire, je n'en fais pas encore un autre. Il n'y a plus rien à dire.
Ouais, pour ce qui me concerne, oui, j'ai des relations assez affectueuses et de confiance avec Yves, avec Gilbert, par exemple, pour évoquer avec eux des thèmes qui me préoccupent, qui m'intéressent, qui me traversent. Et je suis attentif à leurs réactions. Si vous voulez, parce que écrire un roman, c'est au fond se lancer dans le vide pendant presque une année. Enfin, c'est important.
C'est sauter d'un avion sans savoir si le parachute va s'ouvrir.
Oui, c'est prendre des risques.
Si même
c'est
on a un parachute, d'ailleurs. Et donc, il y a une appréhension. Il ne faut pas croire, et Claude le disait avec beaucoup de justesse, que c'est de plus en plus facile en vieillissant. C'est le contraire. Enfin, pour moi, en tout cas, mais Claude en témoignait aussi, que plus on avance, moins on est naïf, au fond. Hein. Ce n'est pas avec des ficelles qu'on réussit un roman.
Moi, ce qui m'intéresse toujours chez les écrivains, c'est est-ce que vous avez des petits tics, des rituels, par exemple, avant de vous mettre à écrire? Vous êtes très organisé, hein, Christian. Je crois vous êtes...
Moi, j'écris tous les matins, un peu, pas beaucoup. Oui. Hein. Une page ou deux, pas plus, mais une quasiment tous les jours, chaque fois que je peux.
D'accord. Quel que soit le lieu, à heure fixe?
Toujours la même heure, d'à peu près de 8h30 à 10h, et toujours le dos tourné à la fenêtre.
Ah oui.
Parce que c'est très difficile d'écrire des scènes de chaleur, de canicule, quand il neige dehors.
Ah oui.
Donc il faut vraiment tourner le dos à la réalité. Quoi. Et le romancier, c'est ça, finalement. Il invente un monde, quoi.
Mais est-ce qu'avant, par exemple, vous faites une petite balade pour...
Pas le matin, non. L'après-midi, oui, mais pas le matin. Hein. Mais moi, je porte longtemps mes livres en moi avant de les écrire. Comme disait Jean Giono, mon livre est fini, je n'ai plus qu'à l'écrire. Ah, donc, oui. Ouais, c'était un peu ça, quand même.
Et comment vous vient le thème? C'est-à-dire, vous avez des thèmes à traiter? Parce qu'à chaque fois, vous traitez un thème, quand même. Il y a une ligne très...
Oui, en essayant de me diversifier, de ne pas toujours traiter le même sujet, hein, mais c'est de plus en plus difficile.
Qui est souvent raccordé à l'actualité, quand même, enfin, l'actualité au sens large.
Pas toujours, j'essaie.
Enfin, tendances de fond.
Oui, mais bon, on a beaucoup écrit tous, surtout sur l'histoire des familles françaises, finalement. Hein. C'est ce qui a expliqué le succès de nos livres. Hein. C'est qu'on a raconté l'histoire des familles, tout ce que les gens ont connu. Et en nous lisant, ils se sont sentis reconnus, justifiés dans leur existence, si vous voulez. C'est ça la clé, je pense, du succès de nos livres. On leur a parlé de ce qui les intéressait vraiment, de ce qui les touchait vraiment. Et Claude le savait, ça, puisque finalement, c'est lui qui a commencé après Clavel et Clancier. Mais il a très bien compris ça dès le début, Claude.
Oui, c'est ça. Et c'est comme ça que vous avez trouvé un écho et que vous trouvez toujours un écho chez les gens.
Absolument. C'est pour ça que ça fonctionne toujours.
Gens, ouais. Oui. Oui. Vous avez aussi des rituels
Pour ce qui me concerne, toute ma vie, j'étais enseignant et j'ai écrit toute ma vie sur du temps volé. Et donc, j'avais échafaudé une conception du temps qui était un peu proche de celle du marin sur un bateau à voile. C'est-à-dire, quand il y a du vent, j'avance, et quand il n'y a pas de vent, je stagne. Et c'était pareil pour le temps. Et donc, j'avais toujours l'habitude de chaparder des heures par-ci, par-là pour écrire. Et j'ai gardé cette habitude un peu d'instabilité horaire.
Moi, c'est un peu la même chose que Christian. Un peu plus long dans la matinée, mais tous les matins, 3 ou 4 heures d'écriture, même si quelquefois les 3 ou 4 heures ne donnent que quelques lignes. Il y a un écrivain que j'aime beaucoup, un Irlandais qui s'appelle américain, qui s'appelle Colum McCann, qui dit « Tu veux devenir écrivain, ton cul sur la chaise. » Ah oui. C'est ça, s'obliger à.
Oui, oui.
Et moi, c'est tous les matins, je me lève, je vais d'abord écrire. Ensuite, quand ça s'est fait, ma journée, Je considère que ma journée est remplie. Le reste, c'est cadeau.
Dans un autre registre, j'ai en mémoire une interview de Guillaume Musso là, qui disait que quand il disait tout le monde pense que la vie d'un écrivain, c'est formidable et tout, mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui reste en pyjama ou en peignoir toute la journée à bouffer des chips, assis sur, sur une chaise, et puis pour essayer de trouver l'inspiration. Pas vous, Gilbert.
Oh non, sûrement pas. Non. Moi, je me lève de bonne heure, à 6 heures. Je fais comme Yves, tous les matins, au travail. Ça marche pas. C'est quand même pareil. On fait les pages, on les met à la poubelle, on recommence. Et puis, c'est tout. Et l'après-midi, eh bien, c'est le bonheur, c'est la lutherie, c'est l'atelier, c'est le bois.
Dans les lycées et collèges, les élèves me demandent souvent, monsieur, est-ce que vous croyez à l'inspiration ? Je leur dis non, je crois à la transpiration. C'est-à-dire au travail. Parce qu'en fait, quand on se met à écrire, encore une fois, on ne sait pas si le parachute va s'ouvrir. Hein. C'est toujours un peu le cas tous les matins.
C'est aussi
quoi.
Ce qui donne l'adrénaline de la création.
Certes, mais ça devient de plus en plus difficile quand même avec le temps.
Surtout pour les proches.
Exactement.
Et donc, il y a une chose dont on n'a pas parlé, et ça va nous faire une petite transition pour évoquer Denis Tillinac aussi, parce que je voudrais qu'on parle de lui, mais la politique. Parce que Claude Michelet, il aimait la politique. Il aimait,
et Denis aussi.
Voilà. Et donc, il aimait s'énerver, s'indigner contre la politique, ces gens qui ne comprennent rien. Enfin, voilà. Est-ce que vous en parliez, vous aviez des discussions politiques ?
Pas vraiment. On entendait des réflexions définitives, mais on n'en parlait pas vraiment.
Vous
n'avez
jamais
en tout
aimé
cas.
La politique hein, vous...
Non, jamais, non.
Non fait pas. Vous êtes toujours méfié. Hein.
Non, mais je ne fais pas de politique. Non.
À Marseillac, on l'écoutait.
Oui.
On l'écoutait.
Oui.
D'ailleurs, il ne nous demandait pas notre avis. Mais il disait ce qu'il avait à dire, et puis c'est tout.
Mais le sujet revenait sur la table à toutes les fois, hein, c'est voilà. Sûr. Ah, oui, c'est bien ça. Sûr. Oui, bon,
il avait des jugements définitifs.
Oui, mais il avait la passion de la politique. C'était un héritage.
Oui, bien sûr. Il aurait été un très bon éditorialiste, hein, d'ailleurs. Oui. Puisqu'il avait parole assez cinglante.
Il avait mot juste et cinglant. Quand
Et comme Denis, pareil.
Oui, voilà.
Ah, mais Denis avait le sens du raccourci. Oui. C'était extraordinaire.
Exactement. Oui.
Et Denis. Donc, Denis, là, évoquons un peu Denis, parce que c'est quand même aussi, c'était le...
Denis, ça a été le troisième, après Michel Peyramont et Claude, ça a été Denis.
Toi,
moi, le quatrième.
Deuxième, toi ?
Quatrième, moi.
Ouais, moi, cinquième. Oui. Dis donc, c'est...
Ah oui, vous étiez, vous
avez, un numéro.
Ah oui, vous donnez des numéros.
Ah bah oui, nous sommes les. Enfin, on est arrivés à peu près en même temps. On a mis du temps avant de.
Ah ben, ils n'ont pas été acceptés comme ça. Il a fallu qu'ils montrent patte blanche.
Ah oui. Donc Denis, oui, elle était le. C'était un peu le hussard, lui. Hein.
C'était, oui, c'était le hussard, oui, exactement. C'était. Ouais. Mais il aimait beaucoup ça. Mais
comment
bon,
il est arrivé dans la bande, lui ? Comment ça s'est passé ?
Comment ?
Comment il est arrivé dans la bande ? Enfin...
C'est Jacques Pechmore. Ah oui, il allait voir Jacques Pechmore qui a publié le premier livre qui s'appelait Spleen en Corrèze.
Oui, je me souviens.
Parce que Denis était localier à la Dépêche de Tulle. Oui, c'était la Dépêche. Ça. C'était pas la Montagne, c'était la Dépêche à l'époque à Tulle. Hein.
Ouais. Et il c'était votre reine, le patron.
Oui.
J'y étais allé aussi.
Ah oui. Et oui, il allait voir Jacques Pechmore en lui proposant un manuscrit. Je pense que c'était Spleen en Corrèze, le premier. En tout cas, c'est le premier que Jacques a publié, Spleen en Corrèze, Denis, qui était un peu... Il relatait l'état d'esprit d'un localier dans une sous-préfecture, voilà, à ce moment-là. Mais c'était déjà très spirituel et très politique aussi.
Oui, c'est ça. Très spirituel dans tous les sens du terme.
Oui,
voilà, c'est vrai.
Oui,
parce que lui aussi, hein, c'est marrant, parce que Michelet et Tillinac aussi, c'était un grand croyant. Hein,
Denis aussi, je pense. Oui. Et son épouse aussi, Monique. Ouais,
Et puis Denis, c'était un style. C'était une écriture, c'était quelqu'un qui... Ça brille, hein, l'écriture de Denis. Et
très différente de la nôtre.
Ben bien sûr, ça. Et c'était intéressant, justement, qu'il soit des nôtres.
Et inimitable.
Oui.
C'est pas possible.
Vous êtes plus naturaliste. C'est une écriture sensible à la nature, surtout vous, Christian.
Peut-être plus que d'autres, mais c'est pas sûr. Hein. Non, oui. Si on sent beaucoup chez...
Comme Jim Harrison, je sais que vous aimez beaucoup.
Ah, moi, j'aime beaucoup Jim Harrison, oui, mais pour d'autres raisons aussi, parce que comme avec Gilbert, parce que c'est un grand pêcheur aussi. Hein. Oui.
Gilbert, vous êtes très éclectique. Hein.
Pardon ?
Vous êtes très éclectique dans le choix de vos romans.
Oui, j'essaie, parce que j'essaie de trouver des nouveaux sujets. J'essaie de me renouveler, même si je n'y arrive pas complètement. Mais il y a tellement de choses qui m'intéressent que j'ai toujours envie d'en faire une histoire. Voilà.
Oui, moi, là, je te rejoins. Je crois que, enfin, pour ce qui me concerne, chaque roman est une nouvelle aventure. Donc, on essaie d'explorer un peu plus loin en prenant des risques. On est sur le fil et puis on verra bien à l'arrivée ce que ça donnera. Donc les sujets, on essaie d'aller voir ailleurs. C'est la chance qu'a l'écrivain de pouvoir vivre mille vies à travers ces personnages.
Et l'histoire, qui est une forme d'exotisme formidable.
Certains creusent eux-mêmes sillons, et c'est très bien. Et puis, moi, pour ce qui me concerne, j'aime faire des pas de côté et aller sur, à la fois sur d'autres territoires et puis aussi en compagnie d'autres personnages.
Et nous avions aussi des repas à Aurillac chez Denis.
Ah oui, c'est ça.
Pas à Aurillac, mais à Aurillac en Haute-Corrèze, c'est à côté de où Claude venait avec son épouse, évidemment, à ce moment-là, qui se terminait quelquefois par des matchs de football, mais où il y avait des blessés, n'est-ce pas ? Parce que c'était toujours après le repas de midi.
C'était un peu une atmosphère.
Denis était un grand sportif. Denis, ah oui, il aimait beaucoup le sport, il avait joué au rugby beaucoup à Vichy.
Une atmosphère un peu la Claude Sauté, si on peut dire.
Voilà, c'est ça. On peut dire ça. Chez Claude Sauté, il n'y a pas beaucoup de sport, mais bon, c'était un peu ça quand même.
Non, mais je me souviens, il y a un film de Claude Sauté, comme ça, il y a une partie de foot à la fin.
Oui, c'est vrai, tous, oui.
Je crois que c'est Vincent François.
Oui, c'est ça. Ce qui se termine dans la boue, d'ailleurs.
Voilà.
Pour revenir sur les livres et sur l'écriture, pour moi, un livre qui serait réussi, c'est un livre qui me laisserait un peu différent de ce que j'étais avant de l'écrire. Donc
c'est une espèce d'un enrichissement
de quête dont parlait Yves. Au fond, c'est un enrichissement par la prise de risque.
Ça, c'est une belle définition. C'est beau, ça.
Oui. Jean-Guy est très intelligent.
Là, il y a la camaraderie qui perdure. Hein, c'est beau. Hein, vous voyez ça. La camaraderie perdure. Hein. Alors, je ne sais pas combien de temps on a, en fait. Je ne sais plus si on a...
Mais on peut répondre à
une heure,
peut-être, non ?
Oui, justement, c'est pour ça. On a une heure ? Une heure ? Oui. Ah, ben c'est bon, on a le temps, alors, voilà. Donc, attendez, madame, parce qu'on va juste... Donc, je voulais aussi qu'on parle un petit peu de Michel Peyramore, tout près, et qui est un peu l'historien de la bande.
C'est par lui que tout est parti. Hein.
Ben voilà, c'est lui.
Oui, dans les années 50. Avec un livre qui s'appelait Voyage en paradis ou quelque chose comme
c'est
ça.
C'est lui qui a présenté Claude à
Jacques
Pêchemort.
Absolument.
Et après, tout est parti.
Absolument.
C'est un homme assez incroyable. Hein,
Michel, moi, je l'ai connu. J'étais très jeune, j'avais 17-18 ans. Hein, j'essayais d'écrire. Il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, Michel. Ouais. Non seulement à nouer des contacts avec Jacques Pêchemort, mais aussi parce que... je lui faisais lire un ou deux manuscrits et puis qu'il me parlait beaucoup, il m'encourageait beaucoup parce que c'est vrai que c'était difficile quand on vit en province pour un jeune de publier dans une grande édition à Paris, hein, une grande maison d'édition à Paris. C'est ça qui est le plus difficile. Michel m'a beaucoup, beaucoup aidé depuis toujours.
Je suis frappé par, encore l'année dernière, je me souviens, lui ici, une espèce de vitalité comme ça, incroyable. Et j'avais été le voir pour mon livre, là où il m'avait raconté un peu l'occupation à Brive. Oui. Il y avait une mémoire intacte des choses. Enfin, c'était assez incroyable.
Il était peut-être le plus doué de nous tous. Et peut-être parce qu'il avait ce talent-là. Il le disait, moi, il suffit que je m'installe, ça fonctionne comme un robinet. Hein. Et peut-être que, justement, comme il avait une grande facilité, il a accumulé les livres. Il n'est pas reconnu, sans doute, je pense, à sa juste valeur.
Oh, quand même, il est quand même assez reconnu.
Pas tellement, il en a beaucoup souffert, Michel.
Même pendant
les dernières années, il pouvait aspirer à beaucoup mieux, quand même.
Ah oui.
Vous savez, il le vivait très mal les dernières années.
C'est une souffrance que vous avez tous.
Mais non, mais ce n'est pas une souffrance, c'est une réalité.
Vous êtes dans des maisons d'édition très respectables, vous avez des tirages pharaoniques.
Bon... On connaît le fin mot de l'histoire.
C'est votre côté gaulois réfractaire, peut-être, un petit peu, non ?
Vous savez, la littérature, les Parisiens, ils n'aiment pas beaucoup tous ceux qui ont territoire sous les pieds. Et pourtant, C'est le propre des grands écrivains américains, anglais-américains. Il n'y a qu'en France qu'on a fait ce genre de distinction entre la Paris et la province. Ailleurs, en Angleterre, aux États-Unis, ça n'existe pas. Hein, ça
et
n'a
c'est
jamais
dans tous
existé.
Les domaines, malheureusement. Hein. Ça, c'est le côté,
oui, oui, oui.
Évidemment.
Hein. Donc, oui.
Mais vous êtes la littérature des grands espaces, en fait.
Exactement, oui. Par rapport à la littérature des parkings. J'appelle ça la littérature des parkings, moi.
Des nombrils.
Oui.
Moi, je pense que Michel Peyramore est un homme d'une générosité immense.
Ah, oui.
Je peux témoigner qu'il m'a beaucoup aidé. Il me prêtait des livres. Il n'a jamais vécu ma présence comme une présence concurrentielle, si vous voulez. Il a toujours été au service de mes débuts.
Il continue, parce que même quand on va le voir, on peut repartir avec un livre.
Oui, absolument. Voilà. C'est un homme d'une générosité et d'un talent exceptionnel.
Oui, et il n'y a aucun calcul chez lui. Vraiment, il accueille comme ça. Et il donne, naturellement, spontanément, avec son regard aussi qui est très, très, très aiguisé, très affûté. Il sait voir ce qui est bon et ce qui... Mmh.
Hein. Ouais. Ce qui est étonnant chez Michel, c'est la quantité de livres et de manuscrits qu'il a écrits. Parce qu'il a fait 100 et quelques bouquins.
Au moins, oui.
Et pourtant, il m'a bien dit, écoute, si tu as besoin d'un manuscrit, moi, je t'en donne un, tu montes dans le grenier, il y en a 1 mètre cube. Alors...
C'est oui, mais par rapport à Paris, je voudrais citer cette phrase de Jean Giono qui disait, vous savez, à Paris, il y a 100 coupeurs de tête qui se lèvent tous les matins et chacun est roi dans sa tête. Et tous imaginent avoir sucé la tour Eiffel pour la rendre pointue.
Ça, c'est une bonne phrase.
C'est tout à fait ça.
Ah ouais, c'est marrant, ça. Alors écoutez, on a la chance aussi d'avoir parmi nous là, donc, cette dame qui s'appelle Madame de Givenchy, je crois, qui a fait un questionnaire de Proust et qui m'a donné juste avant qu'on commence ce débat, cette conversation plutôt. Elle a envoyé un questionnaire de Proust à Michel Peyramore et Claude Michelet. Donc on va. Ah bah attendez, mettez-vous sur la mienne si vous voulez.
On va se débrouiller, merci beaucoup.
Tenez, mettez-vous, asseyez-vous là. Mais donc on va pas forcément faire toutes les questions, hein, mais on va donner quelques indications.
À Paris, j'avais débuté un ouvrage.
Prenez le micro.
Prenez le micro.
Je vous remercie. Lorsque j'étais à Paris, j'avais débuté un ouvrage d'après le questionnaire de Proust. Et quand je suis arrivée ici, c'est Denis Tillinac qui m'a donné ma chance et qui a publié ce premier ouvrage. Voilà. Et lorsque je suis arrivée dans les années 2000, consciente de cette effervescence littéraire avec nos grands écrivains, je leur ai soumis le questionnaire de Proust.
Oui. Voilà. Alors, juste, on va prendre quelques questions parce que ça serait bien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui
donc
veulent
ainsi, Claude Michelet
poser quelques
répondu.
Questions dans la salle aussi. Donc, on va commencer peut-être par Michel Peyramore.
D'accord.
Puisqu'on parlait de lui, vous lui disiez, par exemple, le principal trait de votre caractère.
Ah, rester en permanence au service de mes amis.
Ouais, ça corrobore un peu ce que vous dites. La qualité que je préfère chez un homme.
L'attention aux autres.
Voilà. La qualité que je préfère chez une femme.
Affection plus tendresse.
Oui, ça, on connaît.
Mais Michel est du Verseau. Le Verseau est affectif.
On sait que Michel Peyramore aimait beaucoup les femmes. Enfin, aime beaucoup les femmes.
Qu'il aimait bien.
Donc, voilà. Et alors, ce que j'apprécie le plus chez mes amis.
L'attention aux autres.
C'est fou.
Mon rêve de bonheur. Ah, c'était bon. Quand est-ce qu'il vous disait ça? Vous allez dire la réponse.
Oui, tout à fait. Alors, moi, il m'a répondu dans les années 2000. Et son rêve de bonheur, écrire jusqu'à 130 ans à peu près.
Ouais.
Et donc voilà. Et puis après, où j'aimerais vivre?
Dans mon précaré de Brive, Corrèze.
Et donc on termine par la fleur que j'aime. Hein, voilà.
La rose pareille au parricide, éluard et l'humble ortie.
C'est beau ça. Mm. Donc, et alors sur Claude Michelet aussi, vous aviez... parce que malheureusement, on ne va pas pouvoir... C'est pour donner un aperçu, hein, c'est toujours bien.
Okay. Mais...
Donc, ma vertu préférée chez Claude Michelet?
La fidélité.
Mon principal défaut?
Râleur.
Mon rêve de bonheur?
Je l'ai déjà, ma vie actuelle.
Ah, c'est beau ça. La fleur que j'aime?
La giroflée et l'orchidée.
L'oiseau que je préfère, c'est joli.
La sarcelle d'été.
Bon, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, Voilà. Ce que je déteste par-dessus tout, on va faire.
La bêtise.
Les personnages historiques que je n'aime pas, Pétain, donc ça, ça semble assez normal. Ah, ça, c'est pas mal. La réforme que j'estime le plus.
La séparation de l'Église et de l'État.
Ça, c'est pas mal. OK. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci.
Voilà. Merci de vous être déplacé. On va peut-être prendre... Vous avez quelques questions, peut-être. Merci, madame. Merci. Merci.
Bonsoir, messieurs. Donc, si j'entends bien, si j'ai bien entendu, moi, je viens de Marseille, donc je ne connaissais pas l'école de Brive, mais je connais et j'ai lu certains de vos ouvrages. Je me rends compte que cette école, c'est une école de messieurs.
Voilà, j'allais poser cette question. Alors, il y a des femmes. Alors, bon, je vous laisse répondre. Qui veut répondre ?
Bien, je pense à Colette Lessac, qui a longtemps travaillé au sein de notre groupe, hein, qui est une corrézienne.
Et Bernadette Michelet, qui publiait la femme de Claude, qui publiait des livres de cuisine et tout ça, mais qui assistait à toutes nos réunions. Hein,
dans mon souvenir, il y avait aussi
Marie-Martine Müller.
Voilà, aussi. C'est ça.
Oui.
Mais elles ne sont pas là.
Vous voyez.
Mais c'est vrai que bon, c'était une époque quand même. Bon, voilà, c'était quand même les hommes. Voilà, Jacques Pochemort.
C'était Jacques Pochemort qui adoubait les amis de la bande. Donc,
voilà. Oui, il faut dire aussi que nous étions
assez grossiers.
Faut quand même
le dire. Il n'y a pas de tabou, donc voilà. Pardon.
Oui, je voulais dire que nous étions assez grossiers, surtout après quelques verres de Meursault à Marcillac.
Mais non.
Et donc, nous n'étions pas au niveau de la délicatesse des dames.
Bonne réponse, là, c'est vraiment... Vous devriez faire de la politique, vous, hein ?
Ah oui, ça m'étonnerait.
Alors, j'ai vu qu'il y avait un autre... Voilà, cette dame aussi qui demandait la parole depuis longtemps. Voilà.
C'est la même question, pourquoi il n'y a-t-il pas davantage de dames ? Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a une autre question qui ne soit pas ces deux-là ? Monsieur, là-bas. Vous pouvez vous adresser à l'un et à l'autre, évidemment.
Oui, bonsoir. C'est une remarque. Laurent Soutenay, président de la fraternité de Mont-Michelet. C'est tout simplement pour dire que sur vos tables, vous avez un numéro de notre revue qui s'appelle Fidélité, qui vient juste de sortir et qui est consacré à Claude Michelet. Voilà. Il y a dans ce numéro un certain nombre de témoignages, dont ceux de Jean-Guy Soumy et de Michel Permort, mais des témoignages de beaucoup de gens. On a essayé de faire un petit peu le tour de la personnalité de Claude Michelet, qui est une personnalité tout à fait intéressante. Ce numéro, il y en a quelques-uns que vous pouvez vous procurer gratuitement au Centre Edmond Michelet, à Brive, rue Champanatier. Et d'autre part, il a une petite caractéristique, c'est qu'il est illustré par des photographies tout à fait assez originales. Elles sont de Jean-Marie Marcel. Alors Jean-Marie Marcel, c'est le fils du philosophe Gabriel Marcel, qui était photographe. Hein. On lui doit en particulier le portrait officiel du général de Gaulle. Il a fait un certain nombre de portraits après la guerre, en particulier des ruines qui ont été causées par la guerre. Et il est allé faire un reportage au ministère des Armées, puisque Edmond Michelet, vous savez qu'au lendemain de la guerre, est devenu ministre des Armées. Claude Michelet, qui était né en 1938, était tout un petit enfant. Donc il a grandi le temps, enfin il a passé 2 années à peu près au ministère de la guerre, qui est actuellement l'hôtel de la Marine, hein, que l'on peut visiter. Et donc ces photos sont très belles, parce que Jean-Marie Marcel a beaucoup de talent. Et en particulier, j'en disais un mot à Christian Signol tout à l'heure, il y a sur la couverture une photo assez paradoxale. On voit le tout jeune, il a 7 ans, le tout jeune Claude Michelet qui est devant un globe avec un avion et on le voit faire voler l'avion. Comme s'il voulait le faire atterrir. Et en fait, dans sa vie, il a non seulement atterri, mais en fait, sa vie a été une vie d'enracinement, vous voyez, tout à fait différente de l'image que nous donnons sur la une de ce numéro. Voilà.
Et cette photo me rappelle d'ailleurs la couverture d'un roman qu'il avait fait, je crois, où il y avait...
Procède, peut-être, oui.
Oui.
Alors, vous avez absolument raison.
Enfin, de mémoire.
La photo de la couverture d'Une fois 7 est une photo de Jean-Marie Marcel qui a été tirée de la même série, du même reportage. Vous avez l'œil. Voilà, exactement. En particulier aussi, vous avez des évocations d'ouvrages, en particulier un grand livre, probablement qui n'a pas été évoqué là, qui s'appelle La Grande Muraille, qui est un très beau livre, et puis aussi un livre de piété filiale, Mon père Edmond Michelet, qui a véritablement lancé les études sur Edmond Michelet. Voilà, mais qui est un livre qui n'a pas vieilli, à mon avis, qui est un beau livre, qui à mon avis, enfin bon, tous ceux qui ont travaillé sur Edmond Michelet, il y a eu une thèse d'État, hein, il y a eu pas mal de biographies.
La biographie de Jean Charbonnel.
En particulier, voilà. Et puis votre ouvrage. Enfin, bon.
Non,
il y a eu beaucoup de livres, mais en fait, tous ces livres-là sont dans la continuation du travail inaugural, en fait, de Claude Michelet. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie.
Merci, monsieur. Merci pour ces précieuses informations. Et d'ailleurs, on peut rappeler d'ailleurs le Centre Edmond Michelet, hein, ici, qui est vraiment un outil magnifique, pour l'avoir utilisé plusieurs fois, grâce à François David qui est là et qui faisait qui m'a permis de découvrir ce centre. Enfin non, je le connaissais avant de te connaître quand même, François, pardon. Et donc voilà. Mais c'est un outil absolument remarquable. Et d'ailleurs, juste, j'en profite pour vous faire une petite annonce parce que je crois demain, Yves, vous allez participer à une dictée à l'ouvroir, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ce qui rendra hommage à Claude Michelet.
Bien sûr, c'est une dictée qui a été écrite par Jean-Joseph Julot, qui donnera d'ailleurs, qui dictera. Moi, je me contenterai d'une première lecture, mais je vous invite à venir participer, à venir concourir, parce que le texte tel qu'il a été écrit est un hommage superbe à Claude et à son œuvre.
Et c'est où et à quelle heure pour être...
À 10 heures. C'est à 10h demain.
D'accord, à l'ouvroir.
Oui, à l'ouvroir.
À la
Providence. Ah, d'accord. Finalement, c'est la Providence.
Non, c'est pareil.
Ah oui, c'est la même chose.
L'ouvroir, c'est le nom de la chapelle de la Providence.
D'accord.
C'est une salle de conférences.
Bon, ben, c'est un bel écrin pour Claude Michelet, ça, la Providence.
Oui, c'est un bel hommage à Claude. Et c'est une dictée qui, a priori, pour ceux qui craindraient quelques... difficulté qui n'est pas si difficile que ça. Il y a quand même quelques pièges.
Et qui est tiré de quel livre?
Non, qui est un écrit de Jean-Joseph Julot. Jean-Joseph Julot, c'est lui qui est en France, en tout cas, le responsable de la fameuse collection pour les nuls. Et donc, il organise un peu partout à travers la France des dictées. Oui, voilà.
Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions là? Ah, madame. Formidable.
S'il vous plaît. Voilà, moi je suis déjà d'un âge avancé, mais je vois, messieurs, que vous êtes dans la même situation que moi. Et je me dis que du coup, voilà, la relève, j'entends aussi la difficulté à élargir, pas élargir ces sujets, mais à renouveler. Et du coup, effectivement, comment envisagez-vous le futur de cette école de Brive, s'il vous plaît?
Ah, très bonne question. Christian, vous voulez répondre?
Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne fais pas partie de l'école de Brive. Je ne suis pas chez Robert Laffont. Je suis chez Albin Michel, hélas.
Alors moi, ce que je peux dire, c'est que d'abord, l'âge, c'est un chiffre. Et la vieillesse est dans sa tête. Et quand on a plein de projets, on n'est pas vieux.
Vous devriez vraiment faire de la politique, vous. Hein.
Je crois que je vais y penser.
Moi, effectivement, c'est une vraie question parce que pour chaque nouveau thème que j'aborde, eh bien, j'essaie d'un renouvellement, d'une sorte de renouvellement dont il a été question dès le départ. C'est très, très difficile parce que quand on vieillit, il y a une forme de cristallisation. je sens bien au contact de la jeunesse que cette jeunesse est beaucoup plus libre, d'une certaine manière, libre éventuellement de se tromper, mais libre de créer, que je ne le suis. Il faut être très attentif quand on vieillit, et là, je m'inscris un petit peu en faux par rapport à Gilbert. Et donc, se renouveler, c'est très difficile, se renouveler. Il faut essayer, mais c'est très difficile.
Oui, quant à l'avenir de l'école de Brive, moi je crois que toutes les écoles, elles ont existé et puis elles ont disparu, enfin elles sont mortes. Moi je crois que l'école de Brive, c'est un moment dans l'histoire littéraire aux jeunes de créer leur propre école, leur propre bande. Je pense qu'on nous lit, les jeunes écrivains nous lient, mais c'est à eux maintenant de faire leur chemin. On n'a pas tellement... Sinon, à avoir l'attitude de Michel Peyramore, celle d'accueillir. Moi, je rencontre souvent des jeunes qui viennent avec leurs manuscrits, là, les écouter, être présents, mais l'école de Brive, c'est nous, elle existe, elle a existé, et voilà.
Et c'est surtout un esprit qui perdure. Et d'ailleurs, oui. Vous en êtes la
Ah oui, l'esprit la perdure. Hein, la représentation. Bande de copains, elle demeure. Hein, ça, c'est une
fraternité.
Évidence.
Fraternité, générosité, amitié. Donc.
Oui, exigence.
Et vous avez su conjuguer, quand même, je le dis, hein, littérature et aussi bons sentiments, si on peut dire, parce qu'on dit toujours que.
Non, on
les
peut
bons
pas dire.
Sentiments
non,
sont...
non, on peut pas dire ça.
Non, vous aimez pas qu'on dise ça.
C'est-à-dire que pour la littérature parisienne, les bons sentiments, ça n'existe pas. Hein. Donc bon.
Non, mais on peut pas conjuguer littérature et bons sentiments.
Je sais plus. Je crois que c'est Gide qui disait que c'était incompatible.
Ben oui, c'est pour ça. Mais vous inscrivez en faux par rapport à ça. Vous faites aussi.
Oui, à condition que la description de bons sentiments, comme vous dites. Reste quand même sur une ligne bien droite et ne tombe pas dans la sensiblerie. Voilà.
Mais ce n'est pas forcément péjoratif. Ça peut être une
Je
chose.
Suis pas sûr.
Ah bon
oui.
Non, mais dans l'esprit, dans mon esprit, ça ne l'était pas.
Oui, je comprends.
Mais je trouve que c'est bien. Vous êtes un peu l'incarnation d'une littérature généreuse. Et,
généreuse, c'est le mot. Voilà.
Et tournée vers son pays et
Exactement.
Vers les autres. C'est ça,
Exactement.
Je veux dire.
Exactement, oui, absolument. Généreuse, c'est le mot.
Voilà. C'est ça. Et sensible.
Et sensible aussi.
Voilà. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci, messieurs. Merci. Donc, la prochaine fois avec la relève.